Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits et du bienfait principal d'être dans sa présence et d'être ensemble. Nous considérons toujours que c'est un privilège que d'être dans la présence de Dieu, que d'être autour de sa parole et que d'être les uns avec les autres. Et donc nous sommes contents de revoir ceux qui sont partis et qui sont revenus, ceux qu'on n'a plus vus depuis longtemps. On est contents de voir Ali, on est contents de voir ceux qui nous visitent. Soyez tous les bienvenus alors que nous allons nous plonger ensemble dans la parole de Dieu. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit moment de répit avant que le rythme infernal reprenne demain. Certains sont contents. Les enfants ne seront plus 24 heures sur 24 à la maison. D'autres sont stressés. Il y a quelque chose, je ne sais pas moi, le début du mois de septembre, il y a quelque chose. Les voitures reprennent, les enfants vont à l'école. Et c'est beau, mais en même temps, c'est stressant et c'est fatigant. Et voilà. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous fortifie et nous soutient. Enfin, surtout vous. Alors, nous allons lire le même texte que la fois passée dans Juges chapitre 17, puisque aujourd'hui, on va simplement terminer ce qu'on n'avait pas fini la dernière fois. Donc, dans 10 minutes, on a fini. Donc, premier texte dans Juges chapitre 17, pour reprendre le contexte et se rappeler de ce qu'on avait dit la fois passée. Juges chapitre 17. Juges 17, et là nous allons lire l'ensemble du chapitre. Voici ce qui est écrit. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mica. Il déclara à sa mère: tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence? Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent, il est chez moi. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère, qui dit: je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils, pour en faire une statue et une idole en métal fondu, je vais donc te le rendre. Le fils remit l'argent à sa mère, qui en préleva 200 pièces pour les donner à un orfèvre. Celui-ci en fit une statue et une idole en métal fondu, qu'on plaça dans la maison de Mica. Ayant donc chez lui un lieu de culte, il lui fit faire une autre statue et des idoles domestiques, puis il établit prêtre l'un de ses fils. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Or, il y avait là un jeune lévite originaire de Bethléem en Juda, qui appartient à la tribu de Juda. Il résidait là. Il avait quitté Bethléem pour aller s'établir là où il trouverait un domicile. En cours de route, il était arrivé dans la région montagneuse d'Éphraïm et jusqu'à la maison de Mica. « D'où viens-tu ? » lui demanda celui-ci. « Je suis un lévite, » répondit-il, « de Bethléem en Juda. Je suis en route pour m'établir là où je trouverai un endroit. »« Eh bien, » lui dit Mica, « reste donc chez moi. Tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai 10 pièces d'argent par an. » En plus du vêtement et de la nourriture, le lévite entra à son service. Il accepta de rester chez cet homme qui le traita comme l'un de ses fils. Mica établit le lévite dans sa charge et le jeune homme devint donc son prêtre. Il logea dans sa propre maison. Mica dit: « Maintenant, je suis certain que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai pu avoir un lévite pour prêtre. » Et un autre texte dans 1 Samuel, chapitre 8. Les versets 1 à 7. 1 Samuel, c'est le livre qui suit. 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 7. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent, « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Amen. La dernière fois, on s'était donc arrêté sur le texte de Juges, chapitre 17, autour du thème des remèdes contre l'inconscience. Et nous avions étudié ce texte et nous étions rendus compte que c'est un texte qui est une photo, c'est un moment donné de la vie du peuple d'Israël qui nous est donné, qui nous est pris. Et dans cette photo, dans cet aperçu que l'on a, on prend conscience, au travers de l'attitude des différents personnages, de la déchéance morale et spirituelle du peuple. Dans ce texte, on se rend compte, au travers des réactions qu'a chacun, qu'a la mère, qu'a le fils, qu'a le prêtre, de leur façon d'agir, de leur façon de penser, de leur façon de réagir, on prend conscience qu'ils ont perdu les repères. C'est une époque du peuple d'Israël où les repères spirituels, les repères de la parole de Dieu, sont partis. Si bien que les gens commencent à avoir des attitudes complètement insensées. Et donc, on avait détaillé que chacun, la mère, dans ce qu'elle dit, le fils et le prêtre, ont des attitudes qui sont complètement folles. On se demande, mais enfin, comment est-ce qu'on peut en arriver à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, en prenant son nom, il est en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais en étant convaincu que ça plaît à Dieu. Et donc, on se disait, mais c'est quand même terrible d'en arriver à ce point-là où des hommes et des femmes du peuple d'Israël réagissent de cette façon, s'égarent, sans même se rendre compte qu'ils sont en train de s'égarer. Et donc, on avait dit qu'il n'y avait plus de repères. C'était une époque où il n'y avait plus de repères. Les gens vivaient, ils prononçaient le nom de l'Éternel, comme ils le prononcent à plusieurs reprises dans le passage ici, mais le nom de l'Éternel avait perdu sa substance. Il disait Dieu, mais sans plus connaître qui était Dieu. Il disait Dieu, mais sans plus connaître les commandements de Dieu. Il disait Dieu, mais ils avaient perdu la conscience de qui était Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, si bien qu'ils ont commencé à avoir des attitudes complètement loufoques. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire peser sur eux toute la faute. Ils sont les victimes d'une époque où il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus de responsables qui enseignaient la loi, et finalement, à un moment donné, ben, les gens, quand on ne leur dit plus les choses, ils tournent à rien. Et donc, on disait qu'ils avaient des attitudes de poules sans tête, les gens qui vont à gauche et à droite sans savoir pourquoi, sans savoir comment, parce que les repères sont partis. Évidemment, ça nous parle aussi de notre génération dans laquelle les repères sont partis. On en parle souvent, les repères dans les familles, les repères dans la société, les repères dans les relations, les repères sont partis. Et donc, c'est un texte aussi dans lequel on voit les repères. Et donc, on avait dit que ce texte nous enseigne premièrement à ne pas oublier qui est Dieu. Nous ne devons pas oublier qui est Dieu pour nous. Quand on dit Dieu, ça ne doit pas être un mot sans substance pour nous. Quand je dis l'Éternel, je dois savoir qui il est pour moi. On a chanté un chant tout à l'heure, le 116, « Je chanterai le nom du Seigneur ». Et dans ce chant, c'est une description en fait de ce que Dieu est pour nous. Il est le rocher sur lequel j'ai fondé ma vie, il me protège et j'ai confiance en lui, il est celui qui me restaure, celui... Et au travers de toute cette présidence, on voit ce que Dieu est pour nous. Et on avait dit, n'oublions pas qui est Dieu pour nous. N'oublions pas qui il est, n'oublions pas aussi sa volonté, n'oublions pas ses commandements, et que le nom de Dieu pour nous est toujours son poids, est toujours son poids. Quand la Bible dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », c'est de ça qu'on parle. C'est lorsqu'on sait, on prononce le nom de Dieu, mais sans plus avoir le respect, la révérence, la compréhension de ce qu'on est en train de dire. Et donc, on avait dit, premièrement, n'oublions pas qui est Dieu dans nos vies. Il est celui qui me bénit, il est celui qui me pardonne, il est celui qui s'est révélé à moi par Jésus-Christ, il est celui qui prend soin de moi, il est ma justice, il est ma sanctification, il est tout ça. Quand j'oublie qui est Dieu, je peux tomber dans l'inconscience. Je peux oublier la miséricorde de Dieu. À ce moment-là, je vais commencer à être un chrétien qui se flagelle. Donc quand j'oublie que Dieu est miséricordieux, mais je me flagelle de toutes les erreurs que je fais, et alors chaque fois que je tombe, je me frappe, et c'est pas bien, et t'es méchant, parce que j'oublie qu'il est le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne. Si j'oublie que Dieu est le Dieu de miséricorde, quand je m'éloigne, je ne reviens pas à la maison comme le fils prodigue, je reste loin parce que j'oublie qu'il est le Père qui a toujours les bras ouverts pour m'accueillir. De la même façon, quand j'oublie que Dieu est saint, ben je commence à vivre n'importe comment. Je commence à vivre n'importe comment. Je dis Dieu, je prie même peut-être, je viens peut-être à l'église, mais ça n'a plus de valeur. Quand je dis Dieu est saint, ça a une implication pour moi. Ça m'appelle à vivre dans la sanctification, mais quand ça perd sa substance, eh bien, j'oublie complètement qui est Dieu et je commence à avoir des comportements complètement à côté de la plaque. N'oublions pas qui est Dieu. Que nos vies soient des vies organisées autour de la personne de Dieu. Que nous n'oublions pas qui il est, en même temps sa gloire, sa puissance, sa majesté, sa beauté, sa bonté, sa miséricorde. N'oublions pas non plus sa justice. N'oublions pas qu'il est le Dieu de vérité. N'oublions pas qu'il est le Dieu glorieux. N'oublions pas qui il est. Que nos cœurs restent en contact avec la conscience de qui est Dieu. Et si on regarde bien dans nos vies, dans nos parcours, les moments où nous nous égarons, c'est les moments où nous perdons le contact de qui est Dieu. Où nous, à un moment donné, on commence à s'inquiéter, par exemple, on s'agite. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que Dieu est sur son trône et qu'il dirige toutes choses, et qu'il a les choses entre ses mains, et qu'il prévoit, et que même lorsque la terre est ébranlée, il reste sur son trône. Ou alors, quand on oublie qui est Dieu, eh bien, on va commencer à devenir le juge des autres, par exemple. Parce que j'oublie qu'il est le juste juge, je me dis, bah non, en fait, c'est pas lui, c'est moi le juge. Et donc, je commence à juger les autres parce que j'oublie qui est Dieu. Donc, notre vie doit, la vie du chrétien, c'est une vie tournée vers Dieu. Tournée vers Dieu. Et lorsqu'on a les yeux tournés vers Dieu, on peut continuer à marcher selon sa volonté et selon ses commandements. Et puis deuxièmement, on avait dit que le texte de l'appendice de Juges chapitre 17 nous montre, en tout cas l'auteur veut nous montrer combien c'est un temps où il y avait une perte de repères parce qu'il n'y avait plus d'autorité. En verset 6, on dit qu'il y a un refrain qui vient dans le texte. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait pas de roi. Il y avait des juges, mais qui ne jouaient pas vraiment leur rôle. Et donc, ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est que la royauté de l'Éternel, parce que dans toute la Bible, il y a plein de versets dans lesquels on voit que le roi d'Israël, c'est Dieu, en fait. Le vrai roi d'Israël, c'est Dieu. Le vrai berger d'Israël, c'est Dieu. Mais il délègue des gens pour faire un certain rôle, il délègue à un moment donné des juges et puis des rois pour exercer l'autorité en son nom. Mais le problème à cette époque-là aussi, c'était qu'il n'y avait plus, l'effectivité du règne de Dieu était nulle. Ça veut dire que concrètement, Dieu ne régnait plus. D'accord ? Donc quand on dit le manque d'effectivité de la royauté de Dieu, du règne de Dieu, c'est que oui, théoriquement, Dieu reste l'Éternel, il est le maître, le roi d'Israël, mais concrètement, dans le concret, parce que les gens qui étaient là ne jouaient pas leur rôle, Dieu ne régnait plus. Et si bien que le texte nous dit, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Donc il y a un lien dans le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Donc, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Comme Dieu, comme il n'y avait pas de Dieu qui régnait, enfin en tout cas que Dieu ne régnait pas effectivement, ben, les gens, ils vivaient à leur sauce, quoi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans le texte d'1 Samuel qu'on a lu aussi, on voit combien ce règne de Dieu a aussi posé problème à une autre époque, puisque dans le texte d'un Samuel, qu'on vient de lire, il dit à Samuel, ne t'inquiète pas, ils veulent un roi. Mais s'ils veulent un roi, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Donc il y a une époque où il y avait des gens qui étaient censés manifester le règne de Dieu et ils ne le faisaient pas. Et puis il y a une autre époque dans Samuel où les gens ne voulaient pas du règne de Dieu et ils ont trouvé une parade. Une parade, c'est le roi. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en réalité, dans 1 Samuel, quand il demande un roi, le problème, ce n'est pas de demander un roi. Le problème, c'est les motivations qui les ont amenés à demander un roi. Ils demandaient un roi, un, pour être comme les autres nations. Ils demandaient un roi pour être protégés contre les gens qui pouvaient les envahir en oubliant que c'était Dieu leur protecteur. Ils voulaient un roi, une monarchie, et ils ne voulaient plus dépendre de Dieu. Parce que ce qui se passait à l'époque des juges, c'est que Dieu suscitait des juges quand il avait envie. Donc Dieu suscitait périodiquement des juges. Et donc le fait de demander un roi, c'est l'expression de ne plus vouloir dépendre de Dieu, raison pour laquelle Dieu leur dit « Ils ne veulent pas que je règne sur eux ». Donc on a dans Juges et dans 1 Samuel un problème avec la royauté qui amène les gens dans l'inconscience. Et donc ce qu'on avait dit, c'est que nous avons besoin que Dieu règne en nous. Nous avons besoin que Dieu règne en nous. Nous avons besoin que le règne de Dieu soit effectif en nous. Effectif en nous. Parce que le jour où nous nous sommes convertis, théoriquement, Jésus est devenu le roi de nos cœurs. Il a été établi dans nos vies. L'Esprit est entré en nous et il est entré. Il est le Jésus-Christ, le roi, le prophète, le sacrificateur dans nos cœurs. Mais il faut que ce règne puisse être un règne effectif. On a de la chance parce qu'on est en Belgique et qu'on sait très bien ce qu'est un roi qui n'a pas de règne effectif. Et avec tout le respect qu'on a pour lui, on sait bien que le roi ne règne pas en Belgique. Vous savez ça? Donc il est roi, mais son rôle est d'abord un rôle protocolaire, plus d'autres fonctions, oui, bien sûr, que la Constitution lui donne, mais concrètement, il ne dirige pas le pays. Une grande partie de sa tâche consiste à signer des documents qui sont rédigés par ses ministres, et voilà. Donc ça peut être comme ça aussi dans nos vies. Je peux avoir Christ qui règne, mais pas effectivement. Oui, je peux chanter, on l'a chanté, « Je t'adore, mon Seigneur, mon Roi ». Oui, je peux le chanter, mais est-ce qu'il est vraiment roi? Mais est-ce qu'il règne vraiment? Mais est-ce que je peux vraiment dire qu'il règne en moi? Qu'il règne en nous, ça c'est notre prière, qu'il règne en nous. Et le fait que Dieu règne en nous, ça nous protège de l'inconscience. Comme on l'a vu dans Juges 17, comme on le voit dans 1 Samuel, des comportements, des attitudes inconscientes, quand il n'y a plus personne qui règne. Et quand l'homme est livré à lui-même, pour reprendre l'expression de saint Paul, et l'homme commence à courir comme une poule sans tête. C'est tomber dans l'indépendance. Le contraire de la soumission au règne de Dieu, c'est l'indépendance. L'indépendance. Quand je deviens indépendant de Dieu, je commence à vivre indépendamment de son plan, indépendamment de qui il est, indépendamment de sa volonté. Le règne de Dieu en nous. Est-ce que ma volonté est soumise à Dieu? Est-ce que ma volonté est soumise à Dieu? Est-ce que je suis capable d'abandonner ce que je veux pour obéir à Dieu? Comme chrétiens, nous ne perdons jamais notre volonté. À aucun moment donné, notre volonté nous est confisquée. Nous gardons la possibilité de choisir du libre arbitre. Mais est-ce que nous sommes capables de soumettre volontairement notre volonté à Dieu? Ou est-ce que nous sommes plutôt du genre « je suis le capitaine de mon âme, je décide » Ou est-ce que je peux volontairement soumettre ma volonté à Dieu? Est-ce que mes sentiments sont soumis à Dieu? Mes émotions, mes sentiments, est-ce que je les ai soumis à Dieu ou est-ce que je suis indépendant sur ce point-là? Est-ce que je me sens libre, par exemple, de haïr quelqu'un en toute liberté? Ça, c'est un exemple. Lorsque mes sentiments ne sont pas soumis à Dieu, je me sens libre de haïr quelqu'un en toute liberté. Ça peut bien sûr nous arriver à tous d'avoir des sentiments mauvais envers quelqu'un. Mais le chrétien qui est soumis à Dieu, ça le dérange. Vous voyez ? C'est ça, le chrétien, ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est qu'il y a une opposition entre notre chair et l'Esprit. Ce qui fait que le chrétien authentique, il a les mêmes sentiments que tout le monde. Il a les mêmes difficultés que tout le monde. Il est amené, lui aussi, à avoir parfois de la rancune, de la haine. Mais le chrétien authentique, quand il a de la haine, ça le dérange. Parce qu'il veut soumettre son cœur à Dieu, il veut obéir à Dieu, et il sent qu'il n'y arrive pas. Et donc là, il fait un travail, et il prie, et il dit, « Seigneur, aide-moi, aide-moi à te soumettre mon cœur, aide-moi à ce que la haine s'en aille, aide-moi à ce que la jalousie s'en aille. » Le chrétien authentique, c'est un combat pour lui. Bien sûr qu'il peut détester un collègue, il peut être énervé, il peut se mettre en colère. Mais par la suite, l'Esprit de Dieu en lui va provoquer cette tristesse qui amène à la repentance. Seigneur, je sais que je le ressens, je sais que, mais ça, c'est un combat. Est-ce que mes sentiments sont soumis à Dieu? Est-ce que je me sens libre d'être enflammé pour quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Par exemple, le sentiment d'apprécier quelque chose. On a tous le droit, comme chrétien, d'aimer la vie. Est-ce que vous aimez la vie, vous? Atina, elle aime la vie, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur cette question-là. On a le droit d'aimer la vie. On a le droit d'aimer manger, d'aimer boire, d'aimer danser, tout. Mais est-ce que je me sens libre d'aimer quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? En d'autres termes, est-ce que mes sentiments sont soumis à Dieu? Est-ce que je me sens libre de désirer quelque chose que la parole de Dieu me refuse? Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Est-ce que la gestion que je fais de mon temps honore Dieu ou pas? Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Est-ce que la gestion de mon temps correspond aux priorités fixées par le Seigneur? Est-ce que la gestion de mon temps correspond aux priorités fixées par le Seigneur? Monseigneur Benoît nous a fait chanter ce chant « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Ça, c'est mon verset préféré dans la Bible. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Et est-ce que mon temps respecte les priorités fixées par le Seigneur? Ma famille, ma relation avec Dieu, mon service, le travail, le loisir, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre dans tout cela? On peut avoir un temps qui n'est pas soumis à Dieu. Si un père de famille passe la moitié de son temps dans un bistrot plutôt que de s'occuper de sa famille, ben son temps n'est pas soumis à Dieu. Si je ne peux pas réserver dans ma vie un temps pour être auprès de Dieu, mon temps n'est pas soumis à Dieu. Il y a des chrétiens qui ne trouvent pas le temps pour Dieu. Venir au culte, où est-ce que je vais trouver ça dans mon agenda? C'est pas possible, je suis débordé. Quand est-ce que je vais aller pour honorer Dieu? C'est pas possible. Il y a des chrétiens qui ne trouvent pas le temps pour être avec Dieu dans l'intimité. Mais si je ne trouve pas le temps pour être auprès de Dieu, est-ce que je gère bien mon temps? Est-ce que les priorités de mon temps sont bien gérées pour que je puisse passer du temps auprès de lui? Pour méditer sa parole, pour l'écouter, pour prier, pour m'occuper de mes frères et sœurs. On a besoin que Dieu nous appelle à bien gérer notre temps, à bien gérer nos priorités. Sinon, parce que, vous savez, on est tous débordés. Hein? Tout le monde est débordé. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Tout le monde est débordé. Aujourd'hui, à part certains qui ont été débordés pendant des années et qui ont reçu le droit de ne plus être débordés maintenant. Et c'est bien, et reposez-vous. Mais à part ça, les gens qui vivent dans la société, qui travaillent, ben tout le monde est débordé. On a tous des milliards de choses. Les gens qui ont des enfants, il faut faire les tartines, il faut les amener à l'école, il faut faire les devoirs, il faut aller là, il faut acheter des habits, il faut acheter des... Mais tout le monde est débordé. Tout le monde a trop de choses à faire. Mais est-ce que dans ce que j'ai trop à faire, je sais mettre les priorités là où elles sont? Est-ce que mon temps est soumis à Dieu? Est-ce que mes plans, mes objectifs sont soumis à Dieu? Est-ce que mes projets sont soumis à Dieu? Quand je fais un projet, est-ce que je me pose la question de « Seigneur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça t'honore? Ou est-ce que je me sens indépendant dans mes projets? » Est-ce que je suis conscient que les projets de Dieu pour moi sont toujours meilleurs que les miens? Ce que je souhaite pour moi, ce que je réfléchis pour moi, c'est toujours moins bien que ce que Dieu a prévu. Est-ce que mes plans, est-ce que mes projets tiennent compte des buts de Dieu, des objectifs de Dieu? Est-ce que mes projets tiennent compte du royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que mes projets, est-ce que c'est soumis à Dieu? Est-ce que je suis prêt à revoir mes plans pour obéir à Dieu? Quand j'ai prévu quelque chose, est-ce que je suis capable de me dire, ouais, j'ai prévu ça, mais je me rends bien compte, j'ai réfléchi, je revois mes plans pour obéir à Dieu. Est-ce que mes plaisirs sont soumis à Dieu? On a le droit de vivre le plaisir du monde. Vous savez que l'apôtre Paul a condamné très sévèrement les enseignants dans le Nouveau Testament à l'époque qui enseignaient aux chrétiens à refuser les plaisirs, vous voyez? Donc il leur enseignait une ascèse exigeante, complètement démesurée, qui est en opposition avec l'Évangile. Donc il leur disait de ne pas se marier, de pas boire, de pas. Donc il les empêchait de vivre comme des gens qui reconnaissent la grâce de Dieu dans le monde. Mais est-ce que mes plaisirs sont soumis à Dieu? Est-ce que je suis conscient que le plaisir est un don de Dieu? Le plaisir humain, c'est un don de Dieu. Est-ce que je sais dire merci pour les plaisirs que j'ai dans ma vie? Bon, il y en a qui ont beaucoup de plaisir, il y en a qui en ont moins, enfin bon, soit. Mais ce sont des dons de Dieu. Est-ce que je peux voir le plaisir comme un don de Dieu? Est-ce que je vis mes plaisirs dans la reconnaissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, dans la modération ou dans l'indépendance totale? Est-ce que le plaisir devient mon maître et mon idole? Est-ce que je sais mettre de côté mes plaisirs pour le Seigneur? Ça, c'est un bon test pour savoir si mes plaisirs sont soumis à Dieu. Est-ce que je sais mettre de côté mes plaisirs pour le Seigneur? Il y a des chrétiens qui ont fait ça, qui se sont rendus compte, dit « Seigneur, je dois », et qui ont dit, voilà, dans la sagesse, dans la modération. Mais parfois, les plaisirs prennent tellement de place qu'on ne sait pas se dire, oui, bon, est-ce que je sais mettre mes plaisirs de côté pour les autres? Est-ce que je sais mettre mes plaisirs de côté pour les autres? Ah non, lundi j'ai mon cours de yoga, mardi j'ai mon cours de danse, mercredi je vais au Scrabble, jeudi je vais... Et j'ai jamais de temps pour les autres. Toute ma vie est pour moi, en fait. Quel est le pourcentage de ma vie pour les autres? Parce que nous sommes des dons de Dieu pour les autres. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes des dons de Dieu pour les autres. Ben, si ma vie ne consiste qu'à prendre soin de moi, je ne sers pas à grand-chose aux autres. Est-ce que mes inquiétudes sont soumises à Dieu? Est-ce que je sais soumettre mes inquiétudes et mes anxiétés à Dieu, ou est-ce que je les porte comme s'il ne pouvait pas m'aider? Est-ce que je sais déposer mes inquiétudes à Dieu pour le laisser régner, pour le laisser agir? Est-ce que je sais abandonner ma vie, ou est-ce que je veux contrôler mon existence dans les moindres recoins? Est-ce que je fais connaître mes besoins à Dieu, ou est-ce que je veux les gérer tout seul? Nous avons besoin du règne de Dieu en nous, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Nous avons besoin que Dieu règne en nous pour ne pas tomber dans l'inconscience, pour ne pas devenir des poules sans tête qui font des choix. On a besoin de dire « Dieu, viens régner en moi, viens régner dans les aspects de ma vie, dans les aspects de ma personne ». Mais comment est-ce que le règne de Dieu en nous se réalise? Comment est-ce que Dieu réalise ce règne de sa présence en nous? La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 31, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je les tirerai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le règne de Dieu en nous s'établit au travers de l'œuvre de l'Esprit en nous. L'œuvre de l'Esprit qui inscrit dans nos cœurs la volonté de Dieu, la loi de Dieu. L'œuvre de l'Esprit qui nous permet d'être instruits, enseignés par Dieu dans nos cœurs. Il travaille dans nos cœurs pour que son règne puisse s'établir. Il y a un père de l'Église qui s'appelle... Les pères de l'Église, ce sont les premiers fondateurs de l'Église, les premiers enseignants, les premiers... qui s'appelle Pseudo-Macaire, comme quoi, il n'y a pas qu'un chat qui s'appelle Henri. C'est son nom, hein, donc c'est Pseudo-Macaire. Il a dit ceci: la grâce grave dans le cœur des fils de lumière, des enfants de Dieu, les lois de l'Esprit. Ils ne doivent donc pas seulement puiser leur assurance dans les écritures d'encre, car la grâce de Dieu grave aussi les lois de l'Esprit et les mystères célestes sur les tables de leur cœur. Le cœur, en effet, commande et régit tout le corps. Une fois que la grâce est trouvée emparée des pâturages du cœur, elle règne sur tous les membres et les pensées, car c'est en lui que sont l'esprit et toutes les pensées de l'âme et son espérance. Par lui, la grâce passe dans tous les membres du corps. Le cœur, en effet, commande et régit tout le corps. Une fois que la grâce est emparée des pâturages du cœur, elle règne sur tous les membres et toutes les pensées. Ça veut dire que comment est-ce que le règne de Dieu s'établit en nous? Au travers de notre cœur. L'Esprit de Dieu inscrit en nous les lois de Dieu. La grâce de Dieu agit dans nos cœurs pour que la loi de Dieu, pour que la volonté de Dieu, pour que le plan de Dieu y soit inscrit dans nos cœurs. Et que par là, cette grâce puisse régner dans tout notre être. Parce que, comme le dit Pseudo-Macaire, c'est du cœur que vient toute notre vie. C'est du cœur que viennent nos pensées. C'est à partir du cœur que viennent nos pensées, nos actions, nos réactions, notre agir, les domaines de nos vies. C'est à partir du cœur. Et donc le règne de Dieu en nous, ce n'est pas quelque chose qu'il faut arracher par des combats. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nos propres forces. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire avec des contraintes interminables. C'est Dieu qui, par son esprit, dans nos cœurs agit. Il inscrit sa parole dans nos cœurs. Il travaille nos cœurs pour que, au travers de nos cœurs, sa grâce puisse régner dans tout notre corps. À partir de nos cœurs, Dieu fait infuser sa grâce et sa loi en nous pour qu'il règne. Au travers de son esprit, il agit dans nos cœurs, parce que c'est à partir du cœur que viennent tous les membres des pensées. Et lorsque la grâce s'est emparée des pâturages du cœur, du champ de notre cœur, alors là, elle peut régner dans tout ce que nous sommes. Alors, quelle est ma responsabilité par rapport à ça? Puisque c'est la grâce, puisque c'est l'esprit qui agit dans nos cœurs. Qu'est-ce que moi j'ai à faire par rapport à ça? Est-ce que je dois juste rester assis et attendre que l'Esprit agisse, que la grâce agisse, et voilà? Où est-ce que j'ai une part là-dedans? Eh bien, ma part là-dedans, c'est d'exposer mon cœur à Dieu pour qu'il puisse y agir. C'est d'exposer mon cœur à Dieu pour que son Esprit puisse y agir. Comment est-ce que je fais pour exposer mon cœur à Dieu? Quand mon cœur est attaché à sa parole. Au travers de sa parole, qui a été inspiré par l'Esprit, Dieu agit encore aujourd'hui par l'Esprit pour travailler nos cœurs. J'expose mon cœur lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je suis attaché à la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, Dieu agit dans mon cœur, pour qu'au travers de mon cœur, la grâce puisse régner dans tout ce que nous sommes. J'expose mon cœur lorsque je vais dans la présence de Dieu, lorsque je prie, lorsque je présente mon cœur à Dieu. Et bien là, Dieu agit dans nos cœurs. J'expose mon cœur lorsque je vis dans une communauté chrétienne. C'est pour ça que les chrétiens ont besoin d'une église locale. Parce que quand j'expose mon cœur aux autres dans la communauté, ben Dieu me parle au travers des autres. Dieu me travaille au travers des autres. Dieu agit dans mon cœur au travers des autres, au travers d'une parole que les autres reçoivent, au travers d'un encouragement. Dieu agit dans mon cœur au travers des autres. La Bible dit « le faire aiguise le faire ». Dieu nous travaille au travers du contact que nous avons les uns avec les autres. J'expose mon cœur. Notre seule responsabilité, c'est d'exposer nos cœurs. D'exposer nos cœurs, sans cesse, à Dieu, pour qu'il puisse y travailler, de dire « Seigneur, voilà mon cœur ». Moi, je ne sais pas établir ton règne en moi, je n'ai pas les forces, j'y arrive pas. Mais ce que je peux faire, c'est te donner mon cœur pour que tu puisses y travailler, pour que par ton esprit, tu puisses continuer à inscrire tes lois, inscrire ta volonté, inscrire ton plan, et que par là, ta grâce règne dans tout mon être. Amen. Alors ce dimanche, nous avons parlé du règne de Dieu en nous. La semaine prochaine, nous allons parler d'un aspect très très spécifique du règne de Dieu en nous. Très 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 spécifique, très très précis sur le règne de Dieu en nous. C'est le test. Le test des tests sur quelque chose d'extrêmement spécifique pour voir si Dieu règne en nous. Et je ne dirai pas c'est quoi. Comme ça, vous serez là la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse.